je suis arrivé en 2012, 10 ans plus tard. Ça fait drôle à dire, mais ça m'a pris 10 ans. 10 ans avant de prendre la mesure des événements du printemps étudiant québécois. 2012, mémoire à faire. Une enquête orale sur un mouvement étudiant historique.
Premièrement, le legs n'est pas quelque chose de fixe. C'est pas quelque chose comme s'il y avait un verdict clair, disons, qui traversait les époques. Je pense que chaque époque va s'approprier ces événements-là à sa façon.
On fait ça souvent, hein? Commémorer les êtres humains, hein?
J'ai l'impression que c'est un peu comme si c'était hier.
C'est le soir. Je marche sur la rue Saint-Olivier, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Je repense à tout ce qu'on m'a raconté, les professeurs Hélène, Valérie et Martin. Je pense à toutes les manifestations que la rue a vues passer en 2012. Et je vois les mots suivants écrits à la craie sur une maison. Ce que tu cherches, te cherche aussi. Ce que tu cherches, te cherche aussi. C'est vrai que ça a créé quelque chose dans la ville de mener des recherches. J'ai rencontré des gens. Je leur ai posé des questions et j'ai fait remonter des souvenirs dans leur mémoire. Ce que tu cherches, te cherche aussi. Au début, c'était moi qui menais la recherche. Et au fur et à mesure de la recherche, des gens et des archives sont venus à moi. Il y a quelques semaines, Guylaine Saint-Pierre, une manifestante de 2012, m'a contacté. Elle avait entendu parler de mon enquête. Elle m'a invité chez elle. Son conjoint m'a montré des photos et des vidéos de 2012 et m'a fait écouter des enregistrements sonores des manifestations. C'était lui qui avait collecté tout ça sur le vif. Guylaine me raconte 2012.
Il est arrivé une anecdote. Un des leaders de ces manifs quotidiennes avait fait une pancarte où on pouvait lire « Faut-tu s'immoler, tabarnak? » en faisant référence au Tunisien qui avait son kiosque de légumes, et tu sais, quand ça a commencé là-bas, leur printemps à eux, ça a commencé par l'immolation de ce gars-là parce qu'on l'empêchait de vendre ses légumes sur la place, on voulait pas lui donner un permis ou quelque chose du genre. Alors, en référence à ça, le Québécois avait fait une pancarte « Faut-tu s'immoler, tabarnak? » J'avais déjà parlé avec lui de cette pancarte, ça me faisait bien rire. C'était un rire chargé, mais ça amenait quand même un sourire. Un soir, on marchait tous ensemble et il y a des jeunes qui se mettent à scander « Faut-tu s'immoler, tabarnak? » L'auteur de la pancarte et moi, on s'est regardé incrédule. Lui n'en revenait pas que sa pancarte soit devenue un slogan. Donc, ça a duré longtemps. Les gens s'étaient emparés de ce message qu'ils avaient vu sur la pancarte et le scandaient à plein poumon. Mais sinon, j'ai beaucoup, beaucoup de slogans. Je pourrais t'en scander si tu veux.
Je lui ai demandé, non pas de me les scander, mais de me les lire de façon télégraphique.
Une loi spéciale, c'est pas assez. Envoyez l'armée. Une manif par soir jusqu'à la victoire. Oui à l'éducation, non à la corruption. Loi spéciale dictature libérale. Le 18 mai 2012, faut-tu s'immoler, tabarnak? Jour de l'adoption de la loi 78. C'est pas une loi spéciale qui va nous faire plier. Laissez-nous nous disperser. La loi spéciale, on s'en calisse. Citoyens unis pour une vraie démocratie. La police au service des riches et des fascistes. Il y a des classiques là-dedans. Crions plus fort pour réveiller le Québec qui dort. J'ai honte, j'ai honte, j'ai honte de mon gouvernement.
J'ai honte, j'ai honte de mon gouvernement. J'ai honte, j'ai honte de mon gouvernement.
Je m'appelle Guylaine Saint-Pierre. J'ai toujours été curieuse de la chose politique. J'aime beaucoup le Québec. J'aime beaucoup cette société qui a été construite, je pense, dans les décennies récentes sur des projets de solidarité. On a des projets fédérateurs qui construisent des filets pour échapper le moins de monde possible. Et moi, j'aimerais que ça reste comme ça. Et quand je vois des partis politiques ou des personnages politiques qui travaillent dans le sens de détruire ça, je me sens un devoir d'en parler, de faire ce que je peux pour les contrer. On ne peut pas laisser ces gens-là détruire ce qui a été fait de bien ici.
Guylaine me partage comment elle a commencé à s'impliquer en 2012.
Un soir, avec mon conjoint, on marchait dans le Vieux-Québec et on est tombé sur un petit groupe de manifestants sur le trottoir. Un petit groupe. Il pleuvait ce soir-là. On a décidé, moi j'ai dit à mon conjoint, « Allez, viens, on se joint à eux. » Ils manifestaient pour cette cause. C'était en mai, je n'ai pas la date exacte, mais c'est là que ça a commencé pour moi. On a marché avec eux. Bon, on était accueillis en héros. Ah oui, des vieux qui se joignent aux jeunes. Et puis, moi, j'étais dans la quarantaine. On a marché avec eux. Puis, une fois arrivés devant l'Assemblée nationale, ils nous ont dit qu'il y avait une manif tous les soirs. Rendez-vous ici tous les soirs. Alors, à partir de ce moment-là, moi, je n'ai pas pu m'empêcher d'y aller. Il fallait que j'y aille tous les soirs. Et on marchait de nombreux kilomètres. C'était vraiment parcourir le Vieux-Québec, le quartier Saint-Jean-Baptiste. On faisait vraiment du chemin. Parfois, descendre en basse ville sur le boulevard Charest. Et scander des slogans. Et tous les soirs, quand je revenais à la maison, j'inscrivais ces slogans dans mon carnet. J'étais convaincue de vivre une page d'histoire très importante. J'étais ravie de voir toutes ces personnes dans la rue parce qu'une fois sur place, je me rendais bien compte qu'il n'y avait pas que des étudiants plus jeunes que moi. Il y avait des gens de mon âge et des gens plus âgés, dont certains manifestaient de façon très digne, sans rien scander. J'ai vu des couples âgés se tenir par la main, marcher sans dire un mot. Ils étaient là, ils faisaient partie du groupe. C'était très touchant à voir. Et moi, il y a des soirs où j'étais comme ça, mais il y a des soirs aussi où j'étais devant, puis je tenais la pancarte principale, puis je m'époumonais, parce que toutes ces années de gouvernement Charest m'avaient fait naître en moi une colère, une rage contenue, et elle trouvait enfin une voie de sortie. C'était crier dans la rue contre ces politiques qui allait, selon moi, à l'encontre de notre société, à l'encontre de notre façon de vivre ici. Façon de vivre ici qu'on voudrait encore fonder sur la solidarité, sur les mesures qui permettent au plus grand nombre de s'en sortir. Après le repas du soir, mon conjoint me demandait « Qu'est-ce qu'on fait? » Et chaque soir, je répondais « On y va. » Pour moi, je ne pouvais pas ne pas y aller. Donc, on se rendait habituellement en voiture, s'approchant le plus possible, parce qu'on savait qu'on allait marcher beaucoup une fois sur place. Donc, il fallait avoir des jambes. Et on n'était pas sûr d'avoir les jambes pour rentrer jusqu'à la maison. On stationnait notre voiture dans les rues. On se rendait devant l'Assemblée nationale et là, tous les manifestants se regroupaient petit à petit. On a fini par parler avec les organisateurs, les leaders de ces manifestations. Je n'ai jamais su leur nom. On ne s'est jamais vraiment présenté. Mais comme on était devenus des habitués, parfois ils venaient vers nous pour nous demander notre avis sur le chemin à prendre ou différentes choses de ce genre. Et donc, on bavardait avec eux, mais c'était des gens très pacifiques. J'ai jamais senti de violence en eux où on va aller détruire ceci ou attaquer ça. Non, c'était, ça se faisait quand même dans la bonne humeur. On partait pour marcher. Parfois, avant le départ, il y avait des gens qui venaient prendre la parole. Je me souviens d'Agnès Maltais qui était venue, députée. D'autres députés, notamment le très jeune député, je crois, de Terrebonne, qui était venu parler avec nous. Il venait parler avec les manifestants. Puis au moment du départ, il y avait toujours des consignes données avec un mégaphone. Et puis on marchait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parfois, il y a des gens qui voulaient bifurquer, donc séparer la manif. C'était toujours mal vu du groupe principal. Parfois, on essayait de les dissuader de faire ça. Mais c'est arrivé que des petits groupes partent de leur côté. Sinon, pendant qu'on marchait, c'était fabuleux parce que, bon, on criait, c'était libérateur, mais aussi on interpellait les gens sur le trottoir. On les invitait à venir se joindre à nous. Dans des quartiers comme Saint-Jean-Baptiste, dans les rues étroites avec les maisons de chaque côté, on parlait aux gens qui étaient aux fenêtres ou aux balcons. Bon, il n'y a pas beaucoup de balcons, c'était surtout aux fenêtres. Dans la rue, avec nous, dans la rue, avec nous. Bon, je me rappelle d'un homme qui me montrait son bébé. Il ne pouvait pas venir. Un autre buvait sa bière, il faisait « cheers ». Puis il y en a d'autres qui fermaient la fenêtre sèchement, parce qu'ils ne voulaient rien savoir. Mais en général, il y avait vraiment une bonne ambiance dans les rues de ces quartiers-là. Peut-être dans d'autres quartiers, ça aurait été différent. Puis quand moi, j'ai commencé à aller aux manifs, j'écrivais tous les soirs, en revenant dans mon cahier, les slogans. Je gagne ma vie comme traductrice, mais je suis aussi auteure. Donc, j'ai toujours dans ma tête l'idée que les choses sont importantes parfois, même si elles paraissent anodines, parce qu'une fois écrite, une fois qu'on en fait quelque chose, ça peut être très précieux. Donc, je notais dans mon cahier les slogans. J'étais certaine que ça pouvait être important. Et je l'ai vérifié parce que pas longtemps après la fin des manifs, je suis allée à Bruxelles, j'ai rencontré des Québécois et je leur ai récité dans une brasserie plusieurs des slogans et je les ai vus les larmes aux yeux. Et ils m'ont remercié de leur avoir fait partager ça. Donc je me suis dit, je les comprends parce que ça leur a fait vivre les choses qu'ils n'ont pas pu vivre parce qu'ils étaient loin. Donc, pendant une demi-heure, ils ont participé aux manifs par procuration, par personne interposée. Alors, j'ai toujours gardé ces pages. Et c'était ça qu'on faisait au retour. Et mon conjoint et moi, on a pris beaucoup de photos. On a filmé aussi. Puis on a parlé beaucoup de ça. Donc, tous les soirs, au retour, on échangeait sur ce qu'on avait vécu, ce qu'on avait vu.
Guylaine et son conjoint Bernard ont transmis les slogans de 2012 jusqu'en Belgique. Et 10 ans plus tard, à Québec, ils me les transmettent à moi. En sortant de chez eux, je repense à ces manifestations du soir. Une manifestation par soir, c'est pas rien. Comment ça a commencé? Après l'adoption de la loi spéciale, me semble, j'ai déjà entendu dire que c'est après l'adoption de cette loi-là que la grève étudiante s'est transformée en mouvement social populaire. Je me suis rendu compte que je savais pas grand-chose de cette fameuse loi spéciale. Loi spéciale. Wikipédia. Obligation de dispenser l'enseignement, interdiction de l'entraver. Manifestation et rassemblement. 50 personnes ou plus. Obligation de donner son itinéraire. Amende salée, plusieurs milliers de dollars pour la personne qui organise une manifestation jugée illégale. Adoption de la loi, 18 mai 2012. J'ai cherché sur le disque dur de Chiz et j'ai trouvé cette affaire-là.
Plusieurs centaines de juristes ont uni leur voix au concert des opposants de la loi 78. Les participants, des avocats et notaires comptant moins de 10 ans de barreau, se sont retrouvés devant le palais de justice de Montréal vers 18h30 pour une marche silencieuse qui les a menés à la place Émilie-Gamelin. Ils étaient vêtus de la toge afin, disent-ils, de rappeler la dignité inhérente à leur profession et au système de justice fondé sur la primauté du droit et le respect des libertés fondamentales.
Puis ça, datant du 31 mai 2012.
De son côté, l'ONU s'est dit inquiète de la rigueur de la loi 78 légiférant notamment le droit de manifester. Les deux observateurs ont fait part de leurs préoccupations face notamment aux actes de violence survenus au Québec lors des manifestations du 24 mai dernier. Une manifestation qui a mené à la détention de 700 manifestants. Le rapporteur spécial de l'ONU, lui, a pris contact avec le gouvernement qui a promis qu'il clarifierait la question.
Je me suis dit que je devrais aller poser des questions à Linda Fogg, une manifestante que j'ai croisée dans les rues de Québec. Il paraît qu'elle va dans pas mal toutes les manifestations de gauche. Elle me parle de son retour à la militance.
Je m'étais impliquée un peu dans les garderies, ce qu'on appelait les garderies populaires, là. Donc dans ma vingtaine. Mais par après, là, je me suis complètement retirée d'une sorte de bulle. Et c'est juste en 2011, il y a eu l'occupation... Occupons Québec, là, c'est-à-dire dans le mouvement mondial de Occupy. À Québec, il y a eu une occupation au parc Saint-Roch. Et ça s'est mis à m'intéresser. J'allais quelques fois, j'ai même assisté à des... Ça donnait par hasard que j'arrivais, puis il y avait une assemblée générale. Alors je me suis mis à suivre ça. J'ai même apporté des foulards, des choses, parce que je me disais, mon Dieu, il fait quand même froid. Et donc, j'ai apporté des choses, et j'ai assisté à quelques assemblées, j'ai découvert la façon d'applaudir en agitant les mains, des choses comme ça. Mais c'était très nouveau, c'était comme un nouvel éveil à la politique à travers en écoutant les nouvelles, des choses comme ça. Et en 2012, quand ça s'est mis à manifester, je me suis mis à manifester avec la jeunesse. Je m'appelle Linda Fogg. Je suis connue à Québec comme étant une manifestante depuis, disons, 10 ans. Là.
Et elle ne se contente pas de seulement manifester.
En 2012... Cette participation-là au mouvement social a fait en sorte que par la suite, je me suis mis à j'ai rejoint le groupe communautaire, le droit de parole. Puis après, j'ai écrit des articles, notamment sur le droit de manifester, dans droit de parole, tout ça. C'est, ma participation à ça en 2012 a fait en sorte que par après, j'ai continué.
Linda a continué à écrire.
Sinon, y a d'autres choses dans ma boîte rouge, évidemment. Est-ce que je continue?
Je vois une boîte rouge sur la table de sa cuisine.
Bien, ça, c'est des jugements qui sont venus par après. Ça, c'est mon jugement. Mais je mettais dans ma boîte rouge des choses comme ça. Là.
On l'ouvre ensemble.
C'est-à-dire mon masque à gaz, des choses de même. En fait, c'est ça. C'est que là, j'ai mis les choses de 2012 sous le dessus, alors...
On y trouve plein de contraventions.
Le reste, c'est des jugements de cour. Les fois, je suis allée me défendre.
Je lui demande de me parler de son expérience de la contestation judiciaire.
C'est ça. Au départ, quand on reçoit une contravention, peu importe laquelle, n'importe quel gouvernement, n'importe quel niveau peut faire un règlement, une loi, n'importe quoi, puis il faut que les juges, après, vérifient, regardent, est-ce que ça correspond, est-ce que ça respecte l'esprit des chartes, en fait. Mais des fois, ils ne peuvent pas aller voir le moindre petit article dans toutes les juridictions. Alors, à un moment donné, c'est possible de dire, quand on reçoit une contravention, quelque chose, est possible de dire, je conteste sur le plan constitutionnel. Moi, je l'ai déjà fait, d'ailleurs, avec une contravention que j'avais reçue par la police à la suite d'une occupation du Frappru, où j'étais là, d'ailleurs, comme journaliste. Là. J'étais pas là, j'avais pas occupé rien, j'étais là comme journaliste. Mais je ne sais pas, il y a eu une sorte de bug à un moment donné et J'ai reçu une contravention pour ne pas avoir pris le trottoir. Et c'était complètement insensé. Ça n'avait pas de sens. De toute façon, plein de gens avaient pris la rue. Ben, je veux dire, avaient marché dans la rue parce que la rue était bloquée par les voitures de police. Et... Mais cet article-là, du Code de la sécurité routière, je l'avais contesté sur le plan constitutionnel. En plus, évidemment, de dire que la contravention était insensée, là, dans le sens que j'avais apporté des preuves et tout. Mais je l'avais contesté sur le plan constitutionnel avec toute une requête. Et le représentant du procureur général s'était déplacé, d'ailleurs, au cas. Mais finalement, le juge avait décidé qu'il ne s'embarquait pas là-dedans, puis que finalement, il m'acquittait au fond. Alors, il n'était pas allé sur le plan constitutionnel. Mais dans 19-2, il y a des manifestants, dans les premiers qui l'ont eu d'ailleurs en 2013, cette contravention, ont décidé de contester sur le plan constitutionnel. Et au début, là, le juge a accordé sur la question de si un acte de violence est commis, qui était le troisième point de 19-2, si un acte de violence est commis, même un individu, la manifestation est déclarée illégale. Ça, il avait accordé que ça n'avait pas de sens. Là, parce qu'il y a déjà en masse de lois qui existent pour dire que, bon, quelqu'un peut être poursuivi pour méfait, tout ça, mais tu ne peux pas condamner un ensemble de personnes pour l'acte d'un individu. Mais il s'était allé plus loin, finalement, etc. Donc, c'était allé jusqu'en appel et finalement il y a eu le jugement de la juge Biche qui fait tout un jugement pour dire que cet article-là est invalidé. Mais il existe encore. C'est ça, c'est important de contester les lois qui peuvent être adoptées par différentes administrations, mais qui nous semblent, là, je veux dire, ne pas respecter les chartes des droits et libertés. Mais ils vont s'essayer quand même, c'est comme si la Ville de Québec décide de refaire une législation qui veut contrôler les manifestations. L'affaire, c'est que ça peut prendre 10 ans avant qu'à un moment donné, ça soit invalidé à nouveau. Je veux dire, ça serait plus simple s'ils respectaient, je veux dire, les chartes, là, puis le droit de manifester. T'sais.
Linda s'est défendue elle-même au fil des ans. Et en se défendant, elle a aussi défendu le droit de manifester pour tous et toutes. La loi 78 n'a jamais été appliquée comme telle, mais plusieurs de ses articles ont été intégrés à des règlements municipaux.
Ils ont décidé non seulement d'adopter plusieurs articles, en lien avec ça, dont un couvre-feu qu'on ne connaissait pas, un couvre-feu dans les parcs, qui a commencé, autrement dit, au mois de juin 2012, mais aussi de définir ce qu'était une manifestation. Jusque-là, ça n'existait pas dans le règlement sur la paix et le bon ordre de Québec. Ils ont décidé de définir ce qu'était une manifestation pour pouvoir dire qu'est-ce qu'était qu'une manifestation illégale et une manifestation légale. Et donc, c'était une manière de criminaliser, finalement, l'exercice du droit d'association et du droit à la liberté d'expression. Donc, l'article 19.2 était particulièrement celui qui portait sur le fait de donner son itinéraire et de ne pas en déroger. Et il y en avait d'autres, par contre, évidemment, le fait de manifester dans un parc, de manifester la nuit, de manifester même sur les trottoirs qui existent encore, qui n'ont pas été invalidés par la suite. Mais l'article 19.2 portait particulièrement sur l'itinéraire et le fait de donner son itinéraire à la police pour légaliser sa manifestation était un des points centraux de la loi 78 et qui était aussi qui faisait aussi partie de la réglementation de P6 à Montréal. C'est très intéressant parce qu'en fait la Ville de Québec a on pourrait dire une tradition une assez longue tradition de répression de la manifestation, de considérer que la manifestation, c'est quelque chose qui dérange. Et l'administration municipale et la police ont tendance à se dire dans leur tête, regarde, la manifestation, c'est dérangeant. Ça dérange la circulation automobile, tout ça, puis, tu sais, ça dérange. Ça serait mieux qu'il n'y en ait pas, mais puisque, bon... surtout après le jugement en cours d'appel, surtout après le jugement en cours d'appel, ils se sont dit, bon, OK, on est tenu de dire le droit de manifester, ça existe, puis il faut respecter ça. Alors là, ils ont changé leur discours. Après ce jugement-là, ils se disent, ah, c'est à la police à faire respecter le droit de manifester. Tu les entends souvent, surtout avec les manifestations d'extrême droite qui ont eu lieu, ou les manifestations de camionneurs, mettons, qui ont eu lieu, qu'on a vu tout à coup, la police arrivait avec des discours et ils disent « Nous sommes là pour défendre le droit de manifester des citoyens et pour faire en sorte d'apporter la sécurité aux manifestants ainsi qu'aux citoyens. » Alors, ils tiennent des discours comme ça. L'important, c'est que les manifestants collaborent avec nous autres, communiquent avec nous autres. S'ils ne communiquent pas avec nous autres, là, il y a un problème. Et là, alors, ils ont changé leur discours à cause des victoires obtenues. Là, ils sont tenus de parler de droit de manifester et de leur volonté de faire respecter le droit de manifester de chacun.
Linda me raconte ses habitudes de manifestation pendant le printemps 2012.
L'endroit où on allait manifester le plus souvent, c'était devant l'Assemblée nationale, il faut dire. Et il se produisait des assemblées, on pourrait dire des assemblées citoyennes, où les groupes qui étaient... D'abord, il y avait souvent des sortes d'agora, ce qu'on peut dire, c'est-à-dire des où on s'exprimait. Les gens montaient sur les espèces de rambardes, les murets, et s'adressait notamment à l'audience, peu importe le nombre de personnes qu'il y avait, souvent au moment où il y avait justement la décision, est-ce qu'on va donner l'itinéraire ou on ne donnera pas l'itinéraire, alors c'était comme, il y avait des discussions. Fait que là, le monde montait là-dessus, puis des fois, il y avait un porte-voix, puis là, ça discutait, mais nous autres, on est pour de le donner, nous autres, on est contre de le donner, pour quelles raisons, etc. Puis là, il y avait un vote. Et puis, il y avait comme une espèce d'exercice de démocratie que j'ai appris à ce moment-là, que ça s'appelait la démocratie directe. Et donc, on manifestait généralement là. Par contre, il y a eu un déplacement du lieu de manifestation devant l'hôtel de ville quand il y a eu la menace que la ville ait repris finalement l'essence de la loi 78 pour faire une réglementation sur l'encadrement des manifestations dans la ville de Québec, c'est-à-dire au mois de juin. Là, il y a eu plusieurs événements qui se sont produits à l'hôtel de ville, devant l'hôtel de ville, même dans l'hôtel de ville, auquel j'ai participé aussi.
Linda est une militante qui agit sur plusieurs fronts, dans la rue, au palais de justice, dans les pages d'un journal communautaire. Heureusement que notre ville peut compter sur des gens comme elle. Par ses actions, elle incarne une tradition de contestation de fond et de défense des droits. En sortant de chez Linda, je me dis que ce serait bien de parler à quelqu'un qui était en grève en 2012. Je pense à Pierre-Yves Champagne, que j'ai aussi connu dans des manifestations. Il était étudiant en philosophie à l'Université Laval à l'époque. Quelques jours plus tard, on se rencontre.
J'ai commencé à m'impliquer au cégep, donc j'allais au cégep de Lévis. Pendant l'été qui précédait, donc à l'été 2010, il y a eu le G20 à Toronto.
Il me parle de l'implication de son association étudiante et d'une manifestation qui a mal tourné.
Pour la gratuité scolaire, ou pour le gel dans une perspective de gratuité scolaire, pour pouvoir adhérer à la classe, on a fait partie des membres fondateurs de la classe, l'association étudiante de philosophie premier cycle. Puis on a été dans les premiers à voter la grève. On est, parti en grève le 19 ou le 21 avec la première vague en février. Puis là, il y a eu de la mobilisation à faire dans les différents cégeps parce que les cégeps votaient après. La mobilisation à Garneau, la mobilisation à Limoilou, les cégeps ne sont pas tombés en grève. Le 22 mars, il y avait la grosse journée de grève. Puis ensuite, il y avait la semaine de perturbation économique et sociale. Puis c'est dans ce contexte-là qu'il y a eu la manifestation, ou la première manifestation à Québec où ils ont commencé à distribuer des tickets en vertu du code de la route, donc 500.1. Donc c'est la manifestation du 28 mars 2012. Donc l'archive que j'ai conservée, c'est un journal du Soleil du jeudi 29 mars 2012, le lendemain matin, avec ma face en front page, puis après ça, un explicatif de pourquoi distribuer l'étiquette et tout ça. Fait que c'est ça, on était devant l'édifice Price au début de la manifestation. On est descendu par la côte du Palais, puis ensuite, on a remonté Jean-Lesage, le boulevard Jean-Lesage, jusqu'à la White Birch. Donc, on était sur l'autoroute. On s'est retrouvé au niveau de la première rue dans Limoilou, ou des boulevards des Capucins. Puis là, la police qui nous suivait nous a encerclés. Les gens se sont dispersés. Il y a plusieurs personnes qui ont été arrêtées. On a toutes été mis dans un autobus du RTC qui nous a ensuite dirigés vers le poste de police. Puis on s'est fait remettre une contravention de... sur le front page, ils disent 440 $, je ne me rappelle pas du montant exact. Donc le 500.1, en vertu du code de la route pour entraver la circulation. Puis ensuite, il y a eu d'autres manifestations, d'autres actions tout au long de la grève.
Il me partage son expérience lors d'une arrestation.
Je me rappelle d'avoir été surpris, comment dire... c'est la première fois que ça arrivait, donc je ne m'attendais pas nécessairement à ce qu'on me remette un constat d'infraction en vertu du code de la route. C'était la première... en même temps, j'avais déjà été arrêté au G20, fait que je savais que c'était une expérience que j'avais déjà vécue d'être carrément emprisonné pour avoir manifesté. Donc, en même temps, tu sais, comme on allait là, puis je savais qu'il y avait un contexte qui était quand même assez... conflictuel avec le gouvernement qui voulait vraiment casser le mouvement étudiant. Donc, mais en même temps, moi j'avais quand même l'impression de faire partie d'un groupe. Je me sentais pas particulièrement vulnérable dans la mesure où je savais que on était une gang puis que il y avait des moyens humains, financiers, bénévoles, etc. pour contester. Moi je me sentais quand même relativement calme, serein là-dedans. Puis quand les policiers m'ont contrôlé, je me suis pas débattu à ce moment-là. J'ai fait comme, il y a plein d'autres gens qui se sont arrêtés. Fait que moi, j'ai essayé de me sauver, comme tout le monde, puis ça n'a pas marché.
Autre article, toujours sur le même sujet, jouer au chat et à la souris. L'appel au calme du premier ministre Jean Charest a plutôt ravivé l'ardeur des troupes hier soir à Québec, alors que la manifestation nocturne a été déclarée illégale. Dès son départ, plusieurs centaines de personnes ont rapidement pris la rue et donné l'itinéraire aux policiers avec lesquels ils ont joué au chat et à la souris. Donc ça, c'était pendant toute la soirée d'hier.
Jouer au chat et à la souris. Ce que tu cherches, te cherche aussi. Cette partie-là de ma recherche a commencé avec Guylaine Saint-Pierre, qui m'a partagé ses souvenirs des manifestations de soir à Québec. Des manifestations qui ont commencé à l'aube de l'été, après l'adoption de la loi spéciale. J'ai aussi rencontré Linda Forg, une militante pour le droit de manifester à Québec, qui m'a permis de mieux comprendre en vertu de quel article et règlement les manifestantes et manifestants se faisaient arrêter en 2012 à Québec. Pierre-Yves Champagne n'était pas seul, comme il me l'a raconté. Il était entouré d'un réseau de solidarité et ça le rendait serein. Je marche dans les traces de ceux et celles qui m'ont précédé pour mieux comprendre ce qui s'est passé en 2012. Je me demande ce que mes recherches peuvent apporter aux discussions d'aujourd'hui et à celles de l'avenir.